30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors sommaire pour cette émission 30 minutes chrono, qui est donc le samedi, comme on vient de le dire, de 19h30 à 20h, et ça sera le samedi 17 janvier 2015. Alors la chronique de la Babale Carrée s'arrêtera au Qatar pour parler de Babale Ronde, mais pas de celle qui devrait tourner dans ce riche petit pays en 2022. Non, non, nous allons parler maintenant, ces jours-ci, qui vont se dérouler les championnats du monde de handball masculin. Alors nous reviendrons sur cette sorte de répétition générale et sur les quelques polémiques habituelles quand on s'interroge sur le Qatar et ses moyens hors normes. L'invité, alors bonsoir.
Bonsoir.
Alors j'ai un invité qui va venir nous expliquer pas mal de choses. Il s'appelle Mathis Dervaux et il appartient à une association qui s'appelle la PSH34. Jusque-là, je ne me trompe pas.
C'est exact.
Alors, l'association pour personnes en situation de handicap.
Tout à fait.
Alors, pourquoi elle est là, dans 30 minutes chrono? C'est pour la troisième édition d'un festival inter-institution de football adapté et qui aura lieu donc au gymnase Joannic. Et ce sera le samedi 24 janvier prochain. C'est bien ça, pas d'erreur. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça dans la deuxième partie de 30 minutes chrono.
Avec plaisir.
Et enfin, pour conclure, nous reviendrons sur le championnat qu'on appelle le championnat L'Équipe, du journal sportif L'Équipe, des villes de France. Et notre surdoué est actuellement deuxième derrière l'intouchable Paris. I know just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something. I saw it in your eyes. I think I left your backseat. And now it's always good. Babale Carrée. Alors la Babale Carrée va rouler au Qatar, qui décidément a décidé de tout rafler dans le monde sportif. Ce minuscule état de la péninsule arabique a des moyens colossaux pour obtenir ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut? Une sorte de reconnaissance mondiale de son aura, faute de pouvoir se faire aimer pour ses valeurs démocratiques. Tout a commencé en 2011, lorsque, un peu à la surprise générale, le Qatar se vut désigné comme l'organisation du mondial de handball, qui se déroule donc ces jours-ci, du 15 janvier au 1er février 2015. La France, candidate malheureuse à cette organisation, avait du mal à cacher son agacement. Il faut dire que le dossier de la candidature du Qatar était originellement présenté aux électeurs des fédérations votantes, non pas sur un support papier, mais dans un iPad que l'électeur pouvait donc conserver. C'est sympa. C'est un détail, mais cela montre bien la marque de fabrique de l'émirat qui achète pour convaincre. Après, on peut aussi noter qu'une fois le tirage au sort effectué des quatre groupes du tour préliminaire, le pays hôte, le Qatar, a choisi son groupe. Mais là, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de la Fédération internationale qui décide de ce curieux passe-droit. On eut aussi droit au repêchage de l'Allemagne, pourtant battue en barrage. Bon, suite à la curieuse éviction de l'Australie parce qu'elle représentait l'Océanie qui n'était pas reconnue par... Bizarre, bizarre. Alors si, on peut savoir pourquoi. Parce que l'Allemagne, c'est le pays qui est le plus représentatif du handball au monde. C'est même un sport allemand. Handball, pas handball. Alors, le représentant de l'Océanie a été viré. Et puis ensuite, on a repêché l'Islande. Bon, alors c'est très bien, ce sont des grandes nations de handball, c'est très bien, mais enfin, il faudrait savoir si c'est du sport ou c'est pas du sport. On gagne sur le terrain ou... Enfin, remarquez, en France, on a vu ça avec certains clubs qui ont été virés de la deuxième division il n'y a pas très longtemps. Enfin, bref. Alors, donc, l'Islande, lui, a été repêchée parce qu'il y a le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, pourtant juste à côté du Qatar, qui n'ont pas voulu venir. Bon, très bien. C'est pas très clair. Quant aux supporters, on apprend que certains seront invités pour supporter l'équipe du Qatar. Sympa. Afin de remplir les magnifiques salles flambantes neuves à Doha, on achète donc aussi les supporters. Enfin, maintenant, parlons de l'équipe nationale qatari, puisqu'elle est présente au mondial, puisqu'elle est pays hôte. Hein. Et bien, sur les 28 joueurs qui la forment, seulement 5 sont originaires de ce charmant pays. Un pays fort accueillant, apparemment, pour certains, moins pour les ouvriers asiatiques, paraît-il. Hein. Mais dans l'équipe type du Qatar, qui devrait se retrouver sans problème en quart de finale, on trouve un patchwork insensé. Sont présentes dans cette équipe l'Espagne, la Bosnie, le Monténégro, la Tunisie, l'Égypte, Cuba et, cocorico, la France. Et oui, nous avons un Français qatari maintenant. Il s'agit de Bertrand Rouanet, champion du monde 2011 avec les Bleus. C'est bien, hein ? Ils ont une belle équipe, hein, je trouve. Ils vont peut-être gagner, on ne sait jamais. Alors, quant au sélectionneur, bah, c'est qui le sélectionneur ? Bah, et c'est le meilleur, c'est le champion du monde en titre. C'est l'Espagnol Valero Rivera, qui a été débauché de l'équipe d'Espagne pour venir devenir l'entraîneur du Qatar. Alors, il y marche, paraît-il, à 800 000 euros. Bon, paraît-il. Les primes sont aussi énormes, donc applaudissons à tout rompre la sélection nationale du Qatar et ses mercenaires. En plus, le Qatar offre le voyage, écoutez bien. Ainsi, on apprend que 60 supporters d'origine de Vigo, en Espagne, vont devoir faire fort, puisqu'ils sont invités, tout frais payés, à venir soutenir l'équipe nationale du Qatar, mais qui jouera le 21 janvier prochain contre la Rora. Donc, dilemme cornélien, hein, vous ne trouvez pas ? Des Espagnols vont devoir être contre leur propre équipe. Bon, reste le sport quand même. Alors, nos champions d'Europe en titre se verraient bien redevenir encore une fois champions du monde. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ils sont placés sous très haute protection policière. Ils pourront donc se concentrer sur le jeu. Aujourd'hui, ce sera l'invité. Alors, de retour dans les studios de Divergence FM, on est 24 boulevard Pasteur à Montpellier et on reçoit donc Mathis Dervaux de l'APSH 34. Alors, vous allez nous présenter rapidement quelle est cette association. Alors, je dis tout à l'heure qu'elle voulait dire le sigle. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît, pour nos auditeurs ?
Oui, alors l'association pour personnes en situation de handicap, donc APSH 34, une association dont je suis salarié.
D'accord. En gros, cette association, elle n'est pas nouvelle. Hein. Je crois qu'elle a été créée il y a en 73, d'après mes renseignements.
Hein, alors, disons que la structure donc, sur laquelle j'interviens, effectivement, est la structure Henri Vallon, donc la plateforme Vallon-l'Aîné,
oui.
Plus exactement, et qui dépend de cette association-là, qui, au départ, faisait partie de la fédération de l'APAJH, voilà, et qui est devenue APSH 34 dernièrement.
Dernièrement, parce que vous avez changé de position pour raison X ou Y, c'est pas...
C'est une question plus politique qu'autre chose,
je pense. Voilà. Bon, alors on va pas rentrer dans les détails. Vous n'êtes pas financé par le Qatar, hein ?
Non.
Bon, déjà une bonne chose. Donc le monsieur que j'ai en face de moi ne n'émarge pas à 800 000 euros par mois.
Malheureusement, non.
Non, bah voilà. Bon, enfin, c'est pas, non, 800 000 euros par an, pardon. Excusez-moi. Alors, les entraîneurs de handball, c'est pas les joueurs de football. Hein, c'est
non,
par
non,
an.
Mais
c'est pas mal quand même. Hein,
on connaît certains sportifs qui gagnent ça par mois.
Ah oui. Ah, ça, c'est dans le foot. Mais d'ailleurs, le Qatar, comme vous le savez, organise la Coupe du Monde en 2022, paraît-il. Il paraît qu'ils l'ont un peu acheté. Mais enfin bon, revenons à notre invité. Donc, dans l'introduction de la PSH 34, j'ai vu dans votre site que votre présidente dit qu'il n'y a pas des handicapés, mais des personnes. Ça m'a retenu l'attention parce que ça veut tout dire en une seule phrase.
C'est exact. Disons que nous essayons et nous travaillons avant toute chose avec des personnes qui ont certes un handicap, qui sont en situation de handicap, mais qui sont avant toute chose des personnes.
Alors, quel type de handicap vous avez affaire, vous ?
Alors, sur la plateforme Vallon-l'Aîné, nous accueillons des personnes en situation de handicap psychique.
Voilà, c'est donc dans la tête que ça se passe.
C'est exact. Ce sont des personnes qui... ont une maladie occasionne un handicap qui, du coup, ne leur permet pas
d'être autonome.
D'avoir une certaine autonomie. Alors, certains le sont, plus ou moins, en fonction justement du degré de la maladie.
Et vous offrez donc un hébergement, un accompagnement et des soins donc pour ces personnes qui sont chez vous, hein, donc,
voilà,
la plateforme.
Voilà, sur la plateforme, il y a différents foyers sur lesquels, du coup, les personnes sont accueillies. Il y a aussi des personnes qui sont chez elles et qui sont suivies chez elles.
Et puis,
un accompagnement chez elles.
Oui, là, il y en a qui sont complètement, il faut qu'on comprenne bien, et qui sont en liberté. C'est un beau mot. Ils sont en liberté. Ils peuvent venir, aller comme bon leur semble, à peu près.
Voilà, là, la structure Henri Vallon, qui existe depuis déjà un moment, donc vous disiez depuis 1973, a voulu offrir justement une alternative à l'hôpital psychiatrique qui est assez enfermant. Les gens sont enfermés à l'hôpital et sont des périodes de leur vie aussi et de leur maladie qui ne leur permettent pas de vivre à l'extérieur, d'être à l'extérieur.
Ils sont enfermés à la fois physiquement, mais aussi chimiquement.
Chimiquement, oui, tout à fait. Les traitements, alors justement, à l'hôpital, c'est aussi l'occasion de travailler autour de la question des traitements pour permettre de trouver les dosages adéquats qui leur permettront après de pouvoir, entre autres, être accueillis sur la structure.
Oui, et d'avoir une vie à peu près
de
tout le monde.
Exactement, de pouvoir vivre sereinement dans la société, parce que ce sont des personnes qui, avant toute chose, sont dans des grandes souffrances au niveau de la relation, de la relation à l'autre. Et donc, ces traitements, alors s'il n'y a pas que les traitements, il y a aussi tout l'accompagnement justement qui est proposé au-delà, accompagnement psychiatrique, psychologique et éducatif qui leur permet justement de pouvoir avoir une vie un peu plus classique.
Alors, comme on est dans une émission de sport, mais vous avez compris que nous, on déborde vraiment sur le sport. Hein, c'est pas que strictement des résultats qu'on va débiter à l'antenne. Vous organisez le 24 janvier, une compétition sportive. C'est pour ça que je vous ai contacté au départ. J'avais vu ça, j'avais trouvé ça intéressant de vous faire venir. Alors, en quoi consiste cette manifestation sportive et rappeler où est-ce qu'elle a lieu, à quel endroit ?
Alors, donc la manifestation sportive s'appelle le FIFA, Festival Interinstitution de Football Adapté.
C'est pas mal comme titre.
Ça vous rappelle quelque
oui,
chose?
Oui, la FIFA de M. Blatter, quand on a l'occasion de parler de M. Blatter de temps en temps ici, mais on déblatère en général.
Bon, voilà, donc un petit détournement de notre part pour l'occasion de cette manifestation qui a lieu donc le 24 janvier prochain, samedi 24 janvier, au gymnase Joannic, dans le quartier des Cévennes. Donc c'est une manifestation qui existe depuis, enfin c'est sa troisième édition, donc qui existe depuis 3 ans et qui regroupe des personnes justement qui pratiquent le football dans différentes institutions du département.
Et les personnes handicapées de toujours psychiques ?
Alors non, il y a des personnes qui sont des personnes qui sont plus de l'ordre de la déficience, déficience mentale, et qui sont accueillies dans d'autres types de structures, donc qui ont dans
des. Et ça se déroule comment ? Sur des petits matchs de combien de durée à peu près ?
Il y a donc le tournoi regroupe 8 équipes. Sont il y a des matchs donc de 6 minutes dans les phases de poule, donc tout le monde joue contre tout le monde au départ, et ensuite on répartit du coup en fonction des niveaux et des résultats sur 2 compétitions différentes, donc le trophée FIFA d'un côté et la Coupe FIFA de l'autre, où il y a à nouveau une compétition entre les deux groupes, au sein des deux groupes, et pour arriver justement à la finale. Voilà.
Et ça dure toute la journée ?
Ça dure toute la journée.
Ah, oui, dites donc, vous avez du travail.
Oui, on a du travail, mais bon, c'est le jeu en vaut la chandelle dans la mesure où les deux précédentes éditions nous ont montré que... Alors, on est sur un principe de compétition, certes, mais qui se veut quand même convivial.
Oui.
Tout à fait. On encourage les accompagnateurs également à chausser, non pas les crampons,
les
baskets,
parce
qu'on est en salle, tout à fait. C'est l'occasion aussi d'être dans un moment de convivialité et de partage entre accompagnants et accompagnés.
Voilà, on a reçu, nos footballeurs de futsal qui sont du petit bar ici. J'ai des gens qui sont aussi à très haut niveau et c'était fort sympathique. Donc je les salue s'ils écoutent cette émission parce que c'est des gens très très intéressants aussi qui font un travail d'intégration magnifique. Alors revenons donc à vous et à votre association. Alors ces personnes handicapées, comment elles ressentent le sport d'après vous ? Enfin, c'est difficile à vous demander une telle question, mais comment d'après vous c'est ressenti ? Ça ouvre l'esprit ?
Alors, pour en revenir peut-être justement donc à notre pratique du sport sur la structure, moi j'interviens sur un service qui s'appelle le lieu ressources.
Oui.
Nous sommes une équipe de 5 personnes qui proposons des activités. Donc j'ai une collègue qui est éducatrice sportive, spécialisée en sport adapté.
Vous pouvez donner son nom si vous voulez.
Qui s'appelle Ingrid Julian, qui travaille depuis maintenant 15 ans sur la structure, donc qui a un certain bagage et une certaine expérience.
Qui doit connaître un peu.
Pratique principalement la question du sport avec les personnes que nous accompagnons, pas seulement, c'est-à-dire que moi j'ai plus sur des sports individuels.
Oui.
On va citer par exemple une activité Sarbacane à laquelle tout un groupe participe à des challenges tout au long de l'année, et du footing et d'autres sports encore. La question des sports collectifs est moins traitée par Ingrid, et le football c'est plus moi qui, en arrivant sur la structure, ai eu l'idée de monter une activité.
Et puis le football, c'est tellement universel que ils ont forcément... Il y a des supporters, je suis sûr.
Il y a des supporters. Et puis il y avait une demande de résidents de la structure pour pouvoir pratiquer le football. Donc, nous le pratiquons tous les lundis après-midi, avec Vivian Dors, qui est éducateur sportif à la mairie de Montpellier.
D'accord.
Il y a un partenariat qui s'est mis en place avec
la mairie,
qui nous permet d'avoir la présence de Vivian. Donc, il mène les séances. Donc, comment le sport est vécu ? Le sport est vécu, je pense, déjà d'un point de vue de l'ouverture, du bien-être physique qui entraîne un bien-être.
Quand on a bien couru,
quand on a bien couru, on est mieux.
On est mieux.
On est mieux. J'en ai souvent qui, à la fin de la séance, me disent ça fait du bien. Je vais certainement bien dormir cette nuit.
Voilà, ça c'est bien.
Je suis fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Mmh. Donc il y a un vécu effectivement, un vécu sur du bien-être, aussi on essaie de travailler à travers le sport, la question de l'hygiène par exemple,
Avec la relation avec les autres.
Oui, la relation avec les autres, le respect des règles, la compréhension de la consigne aussi, parce que c'est pas forcément toujours évident. Donc il y a tout un travail comment dire, éducatif aussi autour de la question du sport, voilà. Autour de la question de... Et puis voilà, la dimension collective qui n'est pas forcément toujours évidente, parce qu'on disait tout à l'heure, la relation à l'autre n'est pas forcément toujours évidente dans la relation psychique.
Écoutez Mathis, on va se retrouver, mais on va écouter une petite chanson, là, que c'est vous qui l'avez choisie. Hein. On va mettre une petite pause musicale que vous avez choisie. Alors, on est dans la musique. Alors, c'est sympa comme musique. Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ?
Alors, c'est un groupe qui s'appelle Casabian. Le morceau s'appelle Bumblebees. C'est un morceau que je découvre avec vous ce soir, sachant que j'aime beaucoup ce groupe, que je connais tous ses albums, mais que ce morceau,
vous avez échappé.
M'avait complètement échappé.
Vous êtes venu à la radio non seulement pour nous parler de l'association, mais aussi pour écouter de la musique. Vous faites de la musique aussi un peu vous-même.
Oui, je fais de la musique également. Oui.
Vous êtes polyvalent. Alors ces gens-là qui sont en situation de handicap dont vous vous occupez, vous leur faire du sport, mais je crois aussi que vous les emmenez voir du sport, ce qui est aussi très intéressant.
C'est exact. Donc sur le service dont je parlais, le lieu ressources, on propose des activités, mais également des sorties. Tous les mercredis soirs, nous sortons. Ce mercredi, nous sommes allés faire un bowling, par exemple. Voilà. Mais il nous arrive également donc, d'aller voir un match de football. À la Mosson, un match de handball à l'Arena ou à René Bougnol. Du rugby également. Et j'encourage également donc, les personnes avec lesquelles on travaille, et notamment via une association qui s'appelle Culture et Sport Solidaire 34, qui est d'ailleurs partenaire du projet, à se rendre, voir aussi l'équipe masculine de volleyball, l'équipe féminine de basket à
championne de France.
Championne de France, voilà, qu'on a eu l'occasion d'aller voir également. Le water-polo, même le hockey, il y a des tas de sports sur Montpellier.
Championne de France encore.
Voilà. Et donc, Culture et Sport Solidaire permet à des personnes, justement, en précarité sociale et des fois, avec des difficultés.
On aura peut-être l'occasion de recevoir cette association. C'est pour ça que j'ai noté leur nom. Ce sera ils ne dépareilleront pas dans ces 30 minutes chrono, je crois pas.
Non, je ne pense pas qu'ils dépareilleront environs, au contraire. Voilà. Ils offrent des invitations, justement, en travaillant avec les structures culturelles et sportives de Montpellier, aux personnes en difficulté.
Eh ben, une autre fois, on le recevra. On va bientôt se quitter, je pense que je voudrais encore parler d'un petit quelque chose. Alors d'abord, la semaine prochaine, le prochain 30 minutes chrono, c'est un peu particulier, parce qu'il a déjà été enregistré, mais on n'a pas pu le diffuser. Vous savez, il y a eu quelques petits événements qui se sont passés en France. On a été un peu solidaires, évidemment, de tous ces gens-là qui, depuis leur petit nuage, j'espère qu'ils nous regardent encore et qu'ils continuent à nous faire rire. Parce que, mort de rire avec eux, hein, y a pas de problème. Donc la semaine prochaine, on va recevoir des membres de l'équipe de kayak polo de Montpellier MUC, le MUC, et qui sont des gens fort sympathiques d'abord, et puis de très haut niveau, puisque les garçons ont été champions d'Europe l'an dernier, et les filles vice-championnes d'Europe. Donc on aura l'occasion de les entendre dans 30 minutes chrono la semaine prochaine. Alors je voulais juste terminer en vous remerciant d'abord d'être venu jusqu'ici, Mathis.
Merci à vous de m'avoir invité.
Mais c'est avec toujours plaisir qu'on reçoit des gens qui sont dans l'agglomération de Montpellier. C'est notre rôle aussi, hein. On est une radio Montpellier-Rennes et de l'agglomération en général. Et puis, le rôle de cette émission, c'est de faire connaître par le sport, par le biais du sport, aussi d'autres choses. Enfin, le sportif n'est pas que quelqu'un qui court et qui saute. Des fois, il a une tête, figurez-vous. Parfois, un cerveau, ça leur arrive. Et il y en a qui ont des sacrés cerveaux, hein. J'en ai reçu. Ils sont vraiment très, très, très intelligents. Alors, je voulais simplement vous dire qu'il y a une sorte de concours, entre guillemets, qu'organise le grand quotidien sportif, l'équipe. Et il classe les villes en fonction d'un certain nombre de critères. Si vous voulez savoir exactement, c'était mercredi 14 janvier, donc le mercredi dernier, dans le journal L'Équipe, qui classe les villes en fonction de nombreux critères. Alors, qu'est-ce qui est en première ligue, qu'est-ce qui est en deuxième division, etc. Ben, ce classement a donné ce résultat qui, moi, ne me surprend pas, où Montpellier arrive en deuxième place du classement, avec 4000 points donc décernés, très largement en tête de la chasse qui est menée au premier. Le premier, c'est évidemment Paris, mais ça, c'est normal. C'est pas tellement la même surface, on va dire, donc c'est un peu normal. Donc Paris arrive en premier, Montpellier en deuxième, Lyon en troisième, Nantes en quatrième, Toulouse en cinquième, Bordeaux, Dijon, etc. Nos amis marseillais sont neuvième. Alors pourquoi Montpellier arrive aussi bien placé? Parce que les Montpelliérains, ils pratiquent à peu près tous les sports. Il n'y a qu'un endroit où il y a un trou à Montpellier, mais qui va peut-être être comblé, c'est le basket chez les hommes. Pas chez les femmes, ils sont championnes de France, hein, mais chez les hommes, il y a un trou là. Hein. Le basket masculin, alors peut-être que notre ami Louis-Nicolas se fera un plaisir, parce qu'il l'a déjà fait, de monter une équipe de basket. Alors ce 30 minutes chrono est terminé, on remercie Mathis Adlenu.
Je vous remercie également.
Et puis pour les auditeurs, la semaine prochaine. L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.